Bien le bonsoir à tout le monde. Si je ne me trompe pas, c'est l'avant-dernière conférence du cycle, ça doit être ça, je crois. La prochaine étant sur l'illettrisme. Je crois qu'il y a eu une petite erreur de. Il y a eu une petite erreur sur le. Il y a une inversion entre cette conférence ici qui est sur les ancrages culturels et l'illettrisme la prochaine fois. Hein, donc, j'espère que vous ne nous en voudrez pas. Moi, je n'ai pas encore préparé l'illettrisme, donc je vais quand même vous parler d'ancrage culturel, enfin d'interculturalité, pardon. Hein. Voilà. Donc, littérature orale et interculturalité, qui est le sujet du jour, c'est-à-dire essayer de comprendre un petit peu comment les contes peuvent nous aider à glisser d'une culture à une autre, se retrouver un petit peu dans des intermédiaires entre les cultures. Hein. Alors, déjà, peut-être essayer d'envisager comment on est nous-mêmes dans une culture. Et essayer de se poser d'entrée sur cette notion d'interculturalité, ça veut dire quoi déjà, hein? Donc la première chose, c'est qu'on est tous déjà dans des diversités culturelles. Il n'y a pas de culture étanche, il n'y a pas de culture pure, comme on pourrait dire, hein? Toutes les cultures sont des cultures mixtes. C'est-à-dire depuis la nuit des temps, les hommes se rencontrent, n'ont pas obligatoirement tous les mêmes identités culturelles, et donc sont obligatoirement en train de fonder des choses communes, sont toujours en train de mélanger des espaces culturels. Hein. Donc en tant que tel, les Français, par exemple, on est tous, les gens qui se disent Français sont tous plus ou moins Gaulois, Romains, Germains, Francs, et tant d'autres, hein, Grecs, etc. C'est-à-dire qu'on est au bout d'un mélange, au bout d'un espace de syncrétisme, comme on dit, hein, qui va fonder notre culture française. Hein. La culture française qui va être donc, on va dire, cristallisé par le judéo-christianisme à un moment donné, mais surtout par la langue française. Hein. Langue française qui va permettre d'avoir des repères, ce qu'on appelle l'identité. Donc être dans une culture, c'est avant tout, quand on est, en tous les cas, on ne choisit pas sa culture. Hein. Quand on est dans une culture préformatée qui est là. Donc on est avec des parents qui sont eux-mêmes dans un système culturel, hein, et ça c'est important. On est dans une langue. On n'a pas choisi non plus, voire plusieurs langues. Maintenant, aujourd'hui, on a des fois des enfants qui arrivent avec des parents de langues différentes. Hein, donc déjà, ils sont, eux, dans un positionnement interculturel. Donc on est aussi dans des endroits qui nous paraissent des fois immuables. C'est-à-dire que dans une culture, aujourd'hui, on a l'impression que cette culture est très stabilisée, que c'est des cultures comme ça qui ne bougent pas. En réalité, toutes les cultures bougent. Elles bougent tout le temps. Il n'y a pas de culture qui ne soit pas en mutation, en réalité. Et justement, le gros problème, c'est que plus les cultures mutent vite, et plus on se sent mal à l'aise, hein, plus on se sent en difficulté de s'adapter à toutes ces grandes mutations. Donc cette notion de culture, pour moi, elle est importante à pointer en tant que lieu de mouvance, hein, en tant que lieu aussi d'adaptation permanente. Hein. Et aujourd'hui, la problématique de l'interculturalité, c'est comment on trouve, quand on est dans un même territoire, avec des gens qui ont des origines culturelles très différentes, des lieux de liens possibles, des lieux de rencontres, des lieux d'espace, en tous les cas, d'apaisement. Comment on fait en sorte de ne pas arriver dans des conflits, en tous les cas, hein. Donc la notion d'interculturel, c'est à un moment donné comment on arrive à se comprendre au travers des singularités culturelles. Hein. Donc c'est ça qui va nous être un petit peu posé comme grande question. Hein. Donc quelque part, c'est comment le conte va nous aider, le conte, la littérature orale, les mythes, etc., va nous aider à rentrer dans ce système pour pouvoir faire de la médiation, comme on dit aujourd'hui, culturelle, hein, entre les cultures. Donc le gros problème pour tous les hommes, c'est que on est, comme on dit, naturellement ethnocentré. C'est-à-dire qu'on voit le monde au travers de ce qu'on a appris. On voit le monde avec notre filtre. Hein. Et que chaque culture, chaque langue, chaque façon de voir le monde est spécifique malgré tout. C'est-à-dire quelque part, même s'il y a des points communs, et on va le voir tout à l'heure, il y a aussi des points de différence. Une langue, chaque fois qu'on a une langue, c'est une philosophie, c'est pas uniquement des mots, c'est une façon d'organiser le monde. C'est une façon de nommer les objets, hein, de les classifier, de les hiérarchiser. Et en fonction de chaque culture, la langue n'est pas la même. Donc obligatoirement, la façon de voir le monde n'est pas non plus obligatoirement la même. Hein. Donc cette façon de penser l'ethnocentrisme, c'est se dire simplement que bah, c'est très difficile de comprendre ce que l'autre est, puisqu'il n'a pas les mêmes repères que nous, il n'a pas les mêmes représentations du monde que nous. Hein. Donc au départ, on a tendance à être assez juge sur ce qu'est l'autre. Hein. C'est-à-dire qu'il ne fait pas comme moi, hein, donc quelque part, j'ai tendance à le juger comme barbare, comme on disait à l'époque. Barbare, c'était celui qui ne partageait pas la langue, qui ne partageait pas les mêmes mœurs, les mêmes coutumes. Hein. Voilà. Et l'autre, inversement, fait la même chose. Hein. Il y a une petite histoire qui explique bien ça. Hein. C'est un chien qui se promène un jour dans le désert, hein, et puis qui voit un chat arriver en face. Et il est content de voir ce chat. Et plus il s'approche, par contre, plus il devient inquiet. Parce qu'il s'aperçoit que le chat ne remue pas la queue. Et le chat voit le chien, il est extrêmement content, mais lui aussi devient extrêmement inquiet, parce qu'il voit le chien qui remue sa queue. Et vous savez bien qu'un chien qui remue sa queue est content, un chat qui ne remue pas sa queue est content. Et depuis ce temps-là, bah, ils ne peuvent pas se sentir, parce qu'ils n'ont jamais compris qu'ils étaient tous les deux heureux de se rencontrer. Hein. Donc c'est exactement ça aussi, c'est-à-dire quelque part, on a des vieux atavismes racistes qui existent en nous. Le racisme, je dirais, est presque naturel. C'est l'antiracisme qui est un lieu de l'humanité. Et je crois quelque part, être antiraciste, déjà, c'est bien comprendre qu'on a toujours la peur de la différence quand on est humain, quand on est animal. N'importe quel animal va avoir peur de celui qui est différent. Donc après, c'est un contrôle, être antiraciste. C'est être capable de dépasser cette première pulsion qui ramène à la peur. Donc quelque part, la notion de culture, elle va se fonder dans le temps. C'est-à-dire que l'enfant va d'abord avoir ses parents, puis il va avoir l'école, qui va commencer à ouvrir l'espace, c'est-à-dire des parents vont nous apprendre des choses de la famille, de quelque chose qui est assez proche. L'école a tendance à nous donner des clés pour aller dans une société plus large, et puis après, on va avoir, sur ce socle commun que chaque individu doit posséder pour connaître les codes de sa société, on va avoir des ouvertures de plus en plus grandes, hein, et c'est là qu'en général, on va découvrir la culture autre, l'altérité, c'est-à-dire d'autres personnes qui viennent d'ailleurs. Mais pendant toute une période, on envisage notre culture comme étant le socle unique, pour ainsi dire. Hein. Pendant très longtemps, c'était un peu ça. Aujourd'hui, on va dire que c'est comme tout le temps. Il y a toujours eu des rencontres, hein. C'est pas nouveau. Il y a toujours eu des gens qui venaient d'autres pays, dans d'autres pays. Ça, c'est depuis la nuit des temps, c'est comme ça. Par contre, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on a une accélération de ces croisements. Hein. Alors, une accélération qui ne vient pas uniquement du fait que des gens immigrent dans des pays, mais du fait aussi que les moyens d'information nous ouvrent des perspectives sur d'autres cultures, alors qu'à l'époque, on ne les connaissait même pas. Hein. Et aujourd'hui, vraiment, on a l'impression d'avoir la possibilité d'envisager tout ce qui est dans le monde comme culture. Hein. On a l'impression vraiment d'avoir la possibilité d'intégrer l'ensemble du monde. Alors, à la fois, c'est un avantage, ça nous permet de nous accoutumer à d'autres façons de penser, à d'autres représentations du monde, et puis en même temps, ça nous fait très peur, parce que bien sûr, ça déstabilise. Chaque fois qu'on a d'autres cultures qui se proposent, c'est où on est dans le plaisir de l'exotisme, hein, de se changer d'idée. Hein, donc, on va voyager, soit on a très peur, parce que l'autre culture, on ne la comprend pas obligatoirement immédiatement, et on a peur qu'elle nous atteigne dans ce qui est notre mode de construction, dans nos modes de fondation. Et il peut y avoir, ce qui se passe aujourd'hui beaucoup au niveau de la mondialisation, des replis identitaires. C'est-à-dire que les gens ont tellement peur d'aller vers l'autre qu'ils se replient sur eux. Donc ça peut arriver même à des replis extrêmement violents. Par exemple, tous les attentats qu'on a aujourd'hui, ce qu'on appelle l'islamisme, pas l'islam, il ne faut pas confondre. Voilà, mais en tous les cas, ces extrémistes, quelque part, qui veulent à tout prix rester dans des cadres de fondamentalisme, hein, c'est-à-dire qu'ils ne veulent vraiment pas que ça change, et on peut se retrouver comme ça dans des conservatismes extrêmement violents, hein, ce que Amin Mahalouf appelait les identités meurtrières. Voilà. Donc, quelque part, cette notion de culture, voilà, aujourd'hui, on a des frontières qui sont économiques, beaucoup plus que culturelles. Les cultures débordent assez facilement les frontières, soit par les médias, soit par les hommes qui les franchissent. Donc on est dans un endroit d'une mixité, en tous les cas, culturelle de plus en plus forte. Et ça s'accélère. Et ça va s'accélérer. C'est un processus tout à fait logique. Si on regarde par exemple le travail que font ce qu'on appelle les paléolinguistes, les gens qui travaillent sur l'histoire des langues, on s'aperçoit qu'eux, ils estiment qu'au début du monde, il y avait à peu près 14 à 16 000 langues. D'accord? On arrive aujourd'hui à peu près à 6 000. Il en manque. Donc ça veut dire que quelque part, on a perdu pas loin de 10 000 langues. Alors qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que si on regarde qu'est-ce qui se passe dans les processus, c'est deux cultures qui se rapprochent. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Au début, elles parlent chacune leur langue, puis elles trouvent, commencent à parler des langues communes, elles commencent à garder ce qui est le plus efficace dans chacune des langues, et au bout de 100, 200 ans, il n'y a plus qu'une langue à la place de deux. Donc on est arrivé dans un syncrétisme. Donc ça n'arrive pas tout le temps, il y a des fois des langues qui résistent. Mais bien souvent, on a cette espèce de fusion qui fait qu'une des langues va disparaître, mais voire deux. Si c'est une langue dominante qui va, elle va absorber l'autre, avec quelques éléments. Si c'est deux langues qui sont à égalité, ils vont souvent se fondre entre elles. Donc on est dans un espace de disparition des langues, donc de façon de voir aussi, c'est peut-être là qu'il y a le plus de dommages, c'est-à-dire de façon d'envisager le monde différent. Donc on est en permanence sur des lieux de rencontre qui vont fonder des identités. Alors l'identité, des identités, parce que l'identité, c'est difficile à conjuguer au singulier. C'est un peu le problème aujourd'hui avec la notion d'identité nationale. C'est-à-dire, avec un S, ça serait bien, mais au singulier, c'est un peu embêtant. On ne sait pas trop ce que ça veut dire, identité nationale au singulier. Puisqu'on est tous déjà dans des multiples identités. Moi, je suis Cévenol, mais je suis à côté français, et je suis à côté européen, et je suis à côté homme, et je suis à côté père, vous voyez? Et tout ça, c'est chaque fois des espaces d'identité différents. Là, ce soir, je suis en plus conférencier, donc il y a encore une identité supplémentaire. Voilà, mais en tous les cas, on est dans des multiples identités, et en plus, chaque identité n'est pas stabilisée. On peut devenir très vite dans une autre. On peut changer d'identité, par exemple, en changeant de travail, ou passant d'homme marié à un étant divorcé. Bon, on change systématiquement. C'est-à-dire que tout ça, c'est un espace où l'identité est difficilement objective dans l'unité, dans la singularité. C'est pareil, ce sont des choses en mouvement. Donc la grosse problématique pour nous, c'est qu'on est dans des espaces où il faut accepter aujourd'hui ces identités multiples, ce qui n'est pas évident. On a toujours des problèmes aussi à partager ces espaces d'identité. Alors tous ces regards sont relativement neufs. Le regard sur l'autre en tant que pourvoyeur de représentations valides sur le monde, c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui avec la rencontre d'autres cultures, c'est tout à fait neuf. Il faut penser que fin du 19e, même début du 20e, on avait encore des zoos humains. C'est-à-dire qu'on exposait des indigènes dans des foires, dans des expositions internationales, comme étant un petit peu des animaux. Voilà, donc venez voir les indigènes. Et donc c'est pas vieux, ça fait pas un siècle. Voilà. On est sur des espaces où, bien sûr, on a eu des travaux qui ont permis de mieux comprendre ce que ces personnes essayaient de nous dire. Pendant très longtemps, ce qu'on ne comprenait pas était quelque chose qui était barbare et non civilisé. Puis progressivement, on s'est aperçu qu'on ne se comprenait pas parce qu'on ne classait pas les choses de la même façon. On ne les nommait pas de la même façon. On ne les organisait pas de la même façon. On s'est aperçu, par exemple, qu'il y a des savoirs absolument fabuleux chez ce qu'on appelle les sorciers. Mais on ne les comprenait pas pendant très longtemps parce qu'on ne comprenait pas les codes de leur savoir. Donc ça, tout le travail de l'ethnologie, de l'anthropologie, mais aussi les contacts qui ont pu se jouer au niveau économique, ont permis progressivement de se rendre compte que ces peuples n'étaient pas obligatoirement des gens qui étaient inférieurs. Ce n'était pas, comme on disait à l'époque, des populations qui allaient grandir vers nous. En gros, voilà, l'occidentalisation du monde, c'est nous, on est les meilleurs. Les autres ne savaient rien, mais tout simplement, c'était une façon autre d'envisager le monde. Voilà. Donc, c'est des personnes qui ont des fois des regards ou des attentes extrêmement différentes, voire diamétralement opposées aux nôtres. On est, par exemple, dans le mode occidental, sur une notion de comment la civilisation est quelque chose qui doit aller contre la nature. C'est-à-dire qu'on fait la différence entre nature et culture. La culture, c'est ce qui n'est pas naturel. Et toute notre base sociétale a été construite dans l'Occident sur comment on maîtrise la nature. Donc comment on se positionne contre ces effets directs. Alors qu'on a des sociétés, si on prend les achars par exemple d'Amazonie, ou si on prend les pygmées du Gabon, on va se retrouver dans une dimension et dans un idéal complètement différent. C'est comment revenir à ce qu'était le début du monde. Comment, quelque part, l'homme fait partie de la nature et doit vivre avec. Donc vous voyez déjà dans deux extrêmes les différences qu'on va avoir, deux regards sur le monde. C'est pas qu'un hachoir de l'Amazonie ne sait pas prendre l'avion et ne sait pas venir. Ils sont capables d'aller venir défendre leur bout de gras sur un colloque UNESCO, mais c'est pas leur façon de vivre. Dès qu'il peut, il retourne chez lui pour vivre comme il vit habituellement. Donc cet espace aussi de comment on accepte le regard et la conception de l'autre sur le monde, ça commence à changer, mais ça a été pendant très longtemps des sources de conflits, voire de génocide, voire carrément de guerre pendant très longtemps. Donc voilà, on est là, et aujourd'hui la problématique, c'est comment on crée de la médiation avec tout ça. C'est-à-dire comment, quelque part, entre des cultures qui ont des regards et des représentations différentes, on arrive à trouver ces points de rencontre possibles. Donc on peut dire déjà que la notion d'interculturalité, de médiation culturelle, c'est déjà un lieu de la traduction en soi. C'est comment on arrive à traduire, en gros, quelque chose pour trouver du commun. Et c'est là qu'on va peut-être arriver avec le conte, en particulier, mais on pourrait prendre le mythe, on pourrait prendre les légendes, les épopées, etc. Parce que tous ces récits ont quelque chose qui est assez intéressant, c'est qu'à la fois, ils nous donnent des choses qui sont extrêmement partagées, universelles, puisqu'en gros, tous les contes vont traiter en permanence de ce qu'est l'homme dans ce qu'il a de commun, généralement. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il va, il va parler de quoi ? Il va parler de la vie psychique, il va parler des différences sexuées, il va parler de tout ce qui est l'organisation des rapports hommes-femmes, du cadre familial, des cadres de génération. Donc, tout ce qu'il va traiter, en gros, c'est l'état de tout homme, où qu'il soit, sur la Terre. Mais il va le traiter, bien sûr, avec la qualité de chacune des cultures. Donc on peut dire qu'à la fois, il va être porteur d'un sens universel, donc ce qu'on appellera les archétypes, au niveau anthropologique et pas au niveau psychanalytique, mais en tous les cas, ce qui est commun à tous les hommes. Et puis, il va aussi prendre en compte le contexte de chaque culture et habiller cette communauté de pensée de tous les hommes avec les spécificités culturelles. Donc, dans la plupart des récits de littérature orale, on a cette double entrée possible. Donc, ça va nous permettre déjà d'avoir un outil qui n'est pas qu'un outil de différenciation, mais qui est bien un outil de... Il y a un tronc commun autour duquel s'attachent certains éléments culturels. Donc, quelque part, déjà, ça c'est un premier point qui est extrêmement important. Et ensuite, ça veut dire que quelque part, ce qui va se jouer aussi avec le conte et la littérature orale, et là j'ajoute le mot oral, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est fixé. Ce sont des récits semi-fixés, c'est-à-dire qu'il y a une forme que les gens apprennent plus ou moins par cœur, mais ils ont pas besoin d'écriture pour ça. Et par contre, le récit est recomposé systématiquement pour chacun des publics. Et c'est ce qui va faire que cet espace, si vous voulez, de transmission, est toujours vivant. Parce que quelque part, le conteur, quand il raconte à un public, tient compte du présent. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans quelque chose d'arrêté. Il adapte systématiquement son récit à son auditoire, à ce que l'auditoire peut entendre. Donc la part de performance, d'improvisation, qui est un outil essentiel pour comprendre ce qui se passe là, c'est cette part-là qui fait qu'il y a adaptation systématique d'un récit à une culture, à un temps, à une époque. Voilà, donc on a cette souplesse qui va être aussi extrêmement importante. Au-delà de ça, il y a d'autres éléments qui sont extrêmement importants dans le conte, ou dans d'autres récits de littérature orale, mais regardez le conte, parce que sinon ça serait trop compliqué d'aller dans des espaces autres. C'est que le conte n'a pas la prétention de dire la vérité. Et ça, je peux vous dire que c'est extrêmement important. Hein, c'est-à-dire le compte, où qu'on le prenne dans le monde, n'a aucune vocation à dire ce qui est vrai. D'ailleurs, tous les compteurs au monde vous diront, on n'est pas là pour vous dire la vérité, on est là pour vous dire des mensonges. Hein. Donc déjà, il n'y a pas cette notion du jugement qui va aller avec tout ce qui est vérité. On sait qu'on est dans l'imaginaire. On sait qu'on est dans un espace qui n'a rien à voir avec les socles du jugement ou des valeurs, hein, même si, quelque part, bien sûr, derrière, il y a tout ça. Donc ça veut dire que, quelque part, cet outil, on va dire, on va le prendre comme ça, ne nous positionne pas immédiatement dans la notion d'étrangeté. Hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de juger l'autre comme différent. On se dit, quelque part, c'est de l'imaginaire. Donc comme c'est de l'imaginaire, il n'y a pas de réticence à rentrer dedans. Hein, on peut essayer. C'est un autre monde, c'est un monde qu'on ne connaît pas. Donc il y a une force de l'exotisme en tant que tel qui ne nous met pas en méfiance, qui ne nous met pas en jugement. Et ça va nous permettre, cet espace-là, de rentrer dans quelque chose qui est extrêmement important, c'est un transfert affectif. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un lieu du jugement, donc on va rentrer en sympathie beaucoup plus facilement que si c'était quelqu'un qui prétextait dire une vérité. Et donc c'est un travail qui va, ça va nous travailler, c'est un jeu du symbolique, c'est un jeu de la métaphore, c'est un jeu d'une parole masquée, hein, quelque part, qui va nous travailler. Le conteur est un grand renard, parce qu'au début il vous dit on est là que pour dire des mensonges, puis à la fin il vous dira peut-être que dans ces mensonges il y avait une petite part de vérité, hein, à vous trouver. Voilà. Mais quelque part on s'aperçoit qu'on est sur des récits qui ne sont pas obligatoirement, comment dire, des discours. On est dans des récits qui sont plus l'énonciation d'un rêve. Et une des forces supplémentaires du conte, c'est que quelque part, il nous fait travailler individuellement, quand on l'écoute, sur des images intérieures. C'est-à-dire que le conteur n'est pas là pour faire des grandes descriptions. Il n'est là que pour suggérer, que pour évoquer. Et il laisse toujours une part de créativité très forte pour celui qui écoute. Donc, quelque part, il va nous donner des petites clés, des petits éléments, mais on va les compléter. Et là, déjà, pour moi, on est dans l'interculturel. On est déjà, si c'est quelqu'un qui nous raconte un conte marocain, algérien ou autre, il va nous donner des clés. Nous, on va repérer ce qu'il y a de commun à tous les hommes et on va y reporter des images, mais troublées par la culture, troublées par d'autres symboles. Hein. Donc, il y a quelque chose qui va se jouer progressivement dans le cheminement, qui sera au-delà de la conscience la plupart du temps, c'est un état des inconscients psychologiques très profonds, voilà. Mais qui va nous mettre au travail sur cette interculturalité au travers de ce qu'on nous propose et de la production qu'on peut en faire. Alors c'est un peu compliqué, mais on va essayer de comprendre ça peut-être au niveau d'un exemple, ça sera plus simple. Donc pour faire ça, ce qui est intéressant, c'est de se dire, le conte, comme il est improvisé, il y a plusieurs versions. Il y a plusieurs variantes. Et ce qui est intéressant, c'est que comme ces contes sont souvent partagés dans plusieurs cultures, il y a des variantes dans plusieurs cultures. Donc quelque part, on pourrait prendre par exemple le conte qu'on connaît bien de Blanche-Neige. Et le Blanche-Neige qu'on connaît bien, c'est celui de Grimm la plupart du temps, parce que Walt Disney l'a mis en cinéma, donc on le connaît bien. C'est la fameuse marâtre qui se regarde tous les jours dans son miroir et qui voit sa fille qui est plus belle qu'elle et qui demande à ce qu'on la perde, en tous les cas qu'on la tue même, c'est même pas qu'on la perde, qu'on la tue, et donc quelque part le chasseur ou le bûcheron qui va l'amener dans la forêt, qui n'ose pas la tuer, donc qui va tuer le cœur d'un animal, va être recueilli par cet nain qu'on connaît bien. Voilà. Donc ça c'est la version qu'on connaît bien, on peut se contenter de ça là. Mais on va prendre d'autres versions. On va prendre une version kabyle. Alors déjà, dans Kabylie, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout marâtre qui est en train de vouloir perdre sa fille, mais c'est la mère. Et c'est cette mère qui, tous les jours, demande non pas un miroir, mais à une lune, aux lunes, qui est la plus belle. Donc on a les mêmes phrases, les mêmes mots, presque. On est bien dans des cultures différentes, mais on a des espaces où la question est presque la même. La façon de la perdre va être différente. Elle va jeter une pelote de laine, couper le fil, et puis elle va suivre la pelote de laine et se retrouver dans une forêt où elle va rencontrer non pas sept nains, mais un serpent qui va l'adopter. Donc déjà, question, qu'est-ce qu'il y a à faire entre un serpent et sept nains? Version marocaine. Pareil, une fois de plus, c'est pas une marâtre, c'est une mère. Ah, tiens, bizarre. Et si on prend une version corse, c'est aussi une mère. Et si on prend notre version, toujours la mer, sauf Grimm. Donc on commence à se dire, oulala, ce conte, il ne nous parle pas d'une marâtre, il nous parle bien de la mère et de la jalousie qu'elle peut avoir avec sa fille. Grimm a essayé d'atténuer, d'accord ? Mais quelque part dans le milieu, donc là on est plutôt dans le milieu marocain, pareil, c'est la mère qui va aller perdre sa fille à un moment donné dans le désert, et la fille va être recueillie par des Touaregs, hein, par des chasseurs Touaregs. Voilà. Et on nous dit qu'elle tombe vraiment très en affection pour un petit chauve. Alors nous, ça nous pose question, c'est quoi ce petit chauve ? Ils sont sept aussi, bien sûr. Hein, voilà. Et là, elle tombe vraiment en affection pour un petit chauve. Alors ça me fait, dans la tête, ça commence à mijoter. Hein. Bon, on peut en prendre plein comme ça, hein, mais déjà, on va garder cela en tant que tel. Hein. Version corse est plus radicale. C'est la mère qui donne sa fille au brigand, qui l'amène dans le maquis. Hein. Mais il y a des sept toujours, bizarrement. Toujours sept, ou un serpent. Hein. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'après, on se pose la question, mais pourquoi le serpent ? On va voir le dictionnaire des symboles kabyle, et on s'aperçoit que le serpent, c'est un élément de la fertilité qui est en relation à la lune, donc cycle. Et ça nous éclaire complètement sur ce que donnent aussi les sept qu'on a un peu partout. On est sur un espace qui symbolise le cycle en tant que tel, un cycle lunaire. Hein. Voilà. Donc ce comparatif, il va nous emmener à des images à la fois différentes et à la fois identiques. Et je peux vous dire que quand on travaille ce matériel-là avec des enfants qui sont d'origine marocaine, kabyle, française, allemande, dans un même groupe, il y a quelque chose qui va être extrêmement intéressant, c'est qu'ils reconnaissent tous dans l'autre la même histoire. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de jugement. Ils ont eu la même histoire. Mais ils ne la disent pas de la même façon. Donc ça veut dire qu'on a un axe commun sur lequel on peut interroger la différence, la diversité. Mais la diversité n'est plus objet de jugement. Elle est objet de compréhension de l'autre sur une même problématique, sur une même dimension psychologique et interne. Hein. Alors, le fameux petit chauve, pour vous, c'est quoi ? Il y en a qui le savent, parce que je le raconte souvent, ça, là. Mais voilà. Hein. Alors ça, les stagiaires se posent beaucoup de questions sur le petit chauve. En réalité, c'est un Touareg. Et les Touaregs, jusqu'à 7 ans, on leur rase la tête systématiquement. Et à partir de 7 ans, on leur fait une tresse par an. Donc on est dans un... Simplement, le conteur, on n'avait aucune intention fantasmée sur le petit chauve, mais il avait simplement envie de nous dire que c'était un enfant. Mais nous, on va l'entendre dans une interprétation symbolique. Hein, parce que quelque part, ça n'a pas les mêmes valeurs. Et c'est là qu'on se rend compte que le symbole, bien sûr, est extrêmement culturel. Hein, c'est-à-dire que tous ces sous-éléments symboliques, on va avoir des choses qui sont à la fois communes, mais aussi beaucoup de choses extrêmement spécifiques, culturelles, d'un temps, d'une époque, d'un lieu. Hein. Voilà, donc cet espace du conte en tant que tel va être un vrai outil très utilisé aujourd'hui d'ailleurs par les conteurs, mais aussi par les instituteurs, par les professeurs qui ont à travailler dans ces situations interculturelles. Hein. C'est un outil par exemple qui peut être utilisé en pédagogie quand on a des enfants primo-arrivants, c'est-à-dire des enfants qui viennent de notre pays, qui ne parlent pas encore la langue. Hein. Moi ça m'est arrivé au lycée de la Vancombe avec un petit turc. Voilà. Et quelque part, on s'est dit comment lui faire accélérer le processus d'acquisition. Hein. Donc on a cherché, il y avait un petit copain qui lui traduisait à côté, hein, un conte qu'il connaissait. Et il connaissait un Cendrillon. C'est pas étonnant, il y a 2800 versions de Cendrillon dans le monde. Hein. Donc il y en a à peu près partout. Voilà. Donc à partir de là, il savait que l'histoire qu'on racontait en français, c'est une histoire qu'il connaissait lui. Donc quelque part, c'est un peu comme si vous avez voyagé. Le fait qu'on connaît ce qui est en train de se dire, qu'on n'a plus qu'à essayer de trouver les mots qui collent avec. Hein. Et quand on a cette chance-là, bah, ça veut dire qu'on va accélérer le processus de compréhension de la langue. Hein. Donc, encore une fois, un outil extrêmement important. Hein. Outil de valorisation avec des groupes d'adultes interculturels. Hein. Donc là, il y a de superbes projets qui ont pu se faire à ce niveau-là. C'est comment, quelque part, on va se retrouver en partager des comptes communs, donc du coup, expliquer ce qu'il y a autour. Ça déclenche souvent d'autres éléments qui vont aller vers des champs. On commence à discuter culture dans le groupe très rapidement, souvent au travers d'un conte, puisque le conte ne se contente pas de faire intelligence, il travaille sur de l'affect. Ça nous ramène aussi à des mémoires enfantines, ça nous ramène à des mémoires de transmission. Hein, donc on est dans des espaces qui dépassent, on va dire, l'intelligence habituelle et consciente. Hein, ça dépasse largement tout ça. Voilà. Donc les grands outils, on va dire, dans le conte qui vont rejoindre ça, c'est en gros la notion de permanence, hein, le fait que les contes disent la même chose depuis la nuit des temps. Alors ils disent la même chose, c'est pas parce que c'est ringard, mais parce que l'homme n'a pas changé depuis la nuit des temps, dans ce qu'il a de principal. Donc ce qui était dit il y a 3000 ans, pour beaucoup, c'est encore extrêmement valide aujourd'hui. Hein. Et le conte n'a pas cette vocation de dire l'informatif. Le conte en soi est plutôt là en train de dire la permanence, ce qui reste, ce qui a toujours été là, ce qui sera sûrement encore là dans 300 ou 400 ans. Ça ne changera pas beaucoup. Voilà. Ça fait 3000 ans que ça dure déjà, donc il y a des chances que ça dure au moins autant. Voilà. Ensuite, son boulot, c'est de dire que autour de ces mêmes axes, autour de cette permanence, il y a des variantes. Donc plusieurs façons de voir, plusieurs façons de se représenter ces stabilités. Hein, la famille, elle existe partout. C'est un des socles de la société humaine. Mais par contre, elle n'est pas composée de la même façon. Elle n'a pas les mêmes règles. Hein, il y a des familles, par exemple, patrilinéaires chez nous, on connaît bien, c'est le père qui est chef de famille. Puis il y a des sociétés matrilinéaires où c'est l'oncle maternel qui est chef de famille. Hein, voilà. Donc ça va changer, on verra que l'enfant est élevé par son oncle, pas par son père. Donc ça change beaucoup de choses en plein d'histoires. Hein. Mais ça nous donne des espaces d'organisation. Ensuite, ce qu'il va y avoir, c'est les motifs qui sont extrêmement aussi partagés, hein, qui vont toucher de toute façon, souvent, des choses communes. Hein. Alors les motifs, c'est une micro-histoire, c'est une petite unité narrative. Hein. C'est par exemple, c'est le mort qu'on a jeté sur un tas de fumier parce qu'il ne pouvait pas payer son enterrement. Hein. Voilà. C'est un enfant qui va trouver de se casser les dents une à une pour les mettre dans la mâchoire d'un cheval de pierre et le faire revivre. Hein. Donc c'est des choses extrêmement ambiguës sur ce que ça provoque au niveau affectif. C'est des endroits qui font choc, mais ça fait choc pour tous les humains. Il n'y a pas un peuple au monde où on accepterait de mettre un mort sur un tas de fumier. Il n'y a pas un peuple au monde où se casser les dents avec une pierre, ce n'est pas quelque chose de fort. Hein. Voilà, c'est des tabous. Hein. Je pense souvent dans les conférences, cet espace de la charité chrétienne, parce qu'il dit bien ce que c'est qu'un motif. Hein. C'est cette fille qui voit son père mourir de faim dans une prison. Hein. Et puis elle a du lait parce qu'elle est en train d'allaiter ses enfants. Elle va allaiter son père. Vous voyez ce que ça provoque dans la tête. C'est des drôles de choses, mais en même temps, on ne peut pas juger. Hein. C'est la mort du père. Donc on est dans des endroits qui nous mettent en trouble. Les motifs, c'est ça dans les contes. Hein. Ça nous oblige à mettre en travail intérieur des grands éléments. Et ça, on va voir que les motifs sont souvent très internationaux. On va les retrouver presque systématiquement dans toutes les cultures. Et ça, quand quelqu'un d'une culture étrangère ou dans un groupe de personnes ayant des cultures autres, on entend des motifs dans un conte qui est soi-disant de notre culture, c'est des choses qui relient. C'est des espaces qui nous rassurent sur le fait que l'autre n'est pas si étrange que ça. On partage les mêmes affects. On partage les mêmes états de relations par rapport à des choses aussi fortes. Hein. Voilà, donc tout ça, c'est des espaces qui, pour moi, luttent vraiment très fortement vers la barbarie. Hein. Le symbole, après, on vient de le voir, hein, qui est un lieu de l'éclairage de la diversité, c'est-à-dire le choix de sens que les hommes ont fait sur des objets. Hein. Et c'est souvent des objets en plus polysémiques, donc divers, qui donnent des idées de comment le même objet peut porter des sens différents, voire même opposés. L'eau est un élément qui peut noyer, mais qui est indispensable à la vie. La forêt, on peut s'y perdre, on peut s'y réfugier. Tous les éléments symboliques vont avoir des dualités systématiquement. Donc ça permet aussi de comprendre où une société a créé ses forces d'ambiguïté, ses forces créatives à terme. Voilà. Donc un superbe outil qui est souvent pas connu dans ce sens-là, on le conçoit trop souvent comme étant un espace d'occupationnel de l'enfance voilà, qui s'ennuie. Le conte est un vrai outil que les sociétés ont toujours utilisé pour se rencontrer. Hein. Une personne qui a beaucoup travaillé là-dessus, c'est Nadine Decour, hein, qui travaille au CREA à Lyon. Donc c'est quelqu'un qui a commencé à travailler au Yémen. Hein, et c'est ce qui lui a mis la puce à l'oreille, c'est quand elle voyait c'est que des tribus arabes qui se rencontraient là. Mais quand les tribus arrières n'avaient plus à se comprendre, parce qu'ils ne parlent pas le même dialecte, ils se racontaient des histoires en à-propos. C'est-à-dire que l'histoire leur permettait d'expliquer profondément ce qu'ils avaient à dire. Hein. Donc elle a très bien compris que les contes étaient des lieux de reliance dans la différence, et elle en a profité pour faire des outils pédagogiques, puisqu'elle travaille aussi à l'UFM de Lyon, donc la formation des professeurs. Hein, et elle a construit des espaces comme ça qui sont très intéressants, puisqu'elle arrive à faire travailler des groupes d'enfants en interculturalité. Enfin, c'est pas elle qui le fait travailler, c'est les institutrices avec qui elle a travaillé. Des enfants qui n'ont pas encore l'écriture, des enfants de moins de 5 ans. Et elle va travailler sur les variantes. C'est-à-dire que chaque enfant a plus ou moins une variante de son pays. Il ne sait pas écrire, il ne sait pas lire, mais il découpe des objets pour faire plus ou moins la synthèse de son conte. Ils arrivent à faire des fresques immenses. Sur une formation où elle était venue, nous a mené une grande fresque qui faisait au moins 5 mètres de long, comme ça, avec des versions qui sont recomposées. Et les enfants sont capables de raconter la version qui fait partie de leur origine, mais aussi les autres versions, et ce qu'ils n'avaient pas prévu, ce qu'ils sont aussi capables de raconter en diagonale, c'est-à-dire en prenant les motifs qui leur plaisent dans chaque culture. Donc même à moins de 5 ans, on peut travailler sur de l'interculturel, essayer d'être déjà dans une sensibilisation à l'autre, et ça je trouve que c'est un outil absolument fabuleux. Voilà. Donc je ne vais peut-être pas aller plus loin, on va essayer peut-être de rentrer plus tôt dans la discussion, il y a peut-être des questions à poser. En tous les cas, je crois que bon, c'est un outil qui est intéressant. Il aurait fallu parler des autres genres de la littérature orale. On s'est contenté du conte parce que ça serait trop long. Mais par exemple, les mythes sont des outils fabuleux. Quand on regarde en anthropologie le mythe d'une société, c'est comprendre comment cette société a construit tout ce qui était les vides au-dessus de sa tête. Donc comment elle a organisé son imaginaire, son système de pensée va en découler. Terme. Donc c'est des clés pour comprendre aussi des cadres structurants des diversités culturelles. Les épopées nous disent en gros comment chaque société a organisé sa relation aux héros, aux valeurs, à la politique. On va s'apercevoir que la légende organise le territoire et le temps de façon différente. Donc si vous prenez tous les genres, on va s'apercevoir que ce sont des outils absolument fabuleux. Prenez les devinettes. C'est par exemple extrêmement culturel. Il y a des devinettes qu'on ne peut pas comprendre. Parce que c'est de la métaphore, donc ça nécessite de comprendre la pensée de l'autre. Et ensuite, on a des peuples qui sont bien sûr des grands érudits dans cet art de la parole. Je pense en particulier aux Touaregs, qui pratiquent ce qu'on appelle le tamsalt. C'est-à-dire qu'ils ne parlent qu'en métaphore. Et ça, je peux vous dire qu'il faut y arriver à parler comme ça. C'est-à-dire que ce n'est pas une question de connaître la langue. Ce n'est pas le tamashek qui est important à comprendre. C'est de savoir pratiquer cet art de la langue qui fait qu'on ne dit jamais rien directement. Si on veut faire couper la tête à quelqu'un, on lui dira « tu lui feras un collier de perles rouges ». Bon. Comprends qui pourra. Et tout est comme ça tout le temps. C'est un espace où, quelque part, il est extrêmement impoli de dire deux fois le bonjour de la même façon. Il va falloir inventer d'autres formes, il va falloir des formes poétiques. C'est pas pensable de dire directement à une jeune fille qu'on l'aime bien. Il va falloir inventer une forme dans laquelle elle ne sera ni nommée, mais il faudra qu'elle comprenne que c'est elle qui est en jeu. Voilà. Donc on est vraiment sur des choses qui sont toujours dans la parole indirecte. Et ça développe bien sûr des arts de la parole extrêmement complexes et qui créent des récits très 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 forts. Voilà. Donc je m'arrête là, et puis je pense qu'il y a peut-être des questions, il y a peut-être des envies d'aller plus loin pour chacun d'entre vous. Merci. Un petit temps, il faut qu'on se mette un verre à boire le prochain temps. Non mais pour tout le monde comme ça. Il y a un grand chercheur qui s'appelle Dominique Casajus qui travaille avec eux depuis une trentaine d'années, voilà, et qui travaille avec eux. Et toute la clé des Touaregs, pour les comprendre, il faut aller aux djinns. Les djinns sont des esprits qui, pour nous, paraîtraient peut-être folkloriques, pour eux, qui sont vraiment une réalité. Et il y a une peur énorme du djinn chez les Touaregs. C'est-à-dire que c'est un espace extrêmement dangereux. Donc déjà il y a ça. Ensuite il faut comprendre que c'est une société matrilinéaire. Donc quelque part celle qui possède la tente, c'est pas l'homme, c'est la femme. l'homme n'a pas de maison. D'accord ? Donc, quelque part, il est dans la maison de sa femme. Donc, les jeunes Touaregs ne mettent pas longtemps à se marier, en général. Hein, parce qu'ils sont obligés, à partir de 14 ans, 12 ans, 14 ans, de faire leur cabane à côté du campement, puisqu'ils n'ont plus le droit de vivre sous la tente familiale, hein, pour des raisons, bien sûr. Et, en même temps, ça veut dire que la possession du djinn, le premier signal, c'est aussi qu'on parle trop facilement. Donc, il faut maîtriser la parole, déjà, en tant que telle. Hein. Et une des prégnances possibles du djinn, c'est au travers de la parole directe. Voilà. Donc ça explique, et d'une, pourquoi les hommes sont voilés chez les Touaregs, c'est-à-dire que quelque part, comme ils n'ont pas de tente, ils ne sont pas protégés dans la tente, il faut qu'ils soient toujours protégés des djinns, hein, et quand ils ne sont pas sous la tente de leur femme, ils dorment même avec leur voile, hein, ils mangent sous leur voile, d'accord ? Donc cette peur d'être pénétré, hein, par un génie qui les rendrait fous, voilà. Ensuite, cette maîtrise de la parole, hein, parce que la parole trop directe les rendrait accessibles aux djinns, les rendrait manipulables par les djinns. Hein. Donc c'est un espace qui nous paraît extrêmement bizarre. Quand on connaît un peu le désert, je peux vous dire que les présences, on a toujours l'impression d'être entouré par plein de bestioles comme ça. Hein. On ne sait pas trop qui est là. Quoi, hein. Il y a des bruits bizarres, on a l'impression que c'est très silencieux, puis d'un coup, plaque, il y a un petit bruit, on se retourne, il n'y a rien. Donc, il y a, je pense, aussi l'espace de la confrontation à des natures extrêmes, hein, qui sont en jeu. Donc, en tous les cas, là, vous avez cette clé. Donc, le Timsalt est un art qui permet de se protéger autant, hein, que de jouer la poétique. Hein. Voilà, il y a des fonctionnalités extrêmement précises. Voilà, donc, c'est vrai que là aussi, dans l'interculturel, c'est comment on peut les comprendre. Les premiers personnes qui sont arrivées, qui les ont contactées, se demandaient bien qu'est-ce qu'ils étaient en train de raconter. Quoi. Il a fallu du temps pour qu'il y ait quelque chose qui s'échange. Hein. Voilà, et puis eux, ils ne voulaient pas parler autrement. Vous comprenez pourquoi. Hein, sachant que le djinn peut prendre des formes extrêmement diverses, voire celles d'un homme. Hein, pour eux, la djinna, hein, on peut se marier sans le savoir avec une djinna, le découvrir que trop tard. Hein. Donc c'est vraiment des espaces où cette croyance est extrêmement puissante. Hein, dans tout le monde arabe, d'ailleurs. Hein. Les djinns sont inscrits dans le Coran. Hein, c'est un espace qui c'est le roi Salomon, hein, qui les a embauchés pour faire le temple. Hein. Voilà, donc c'est une réalité biblique, hein, c'est une réalité coranique, hein, les djinns. Voilà, donc tout ça, c'est des espaces aussi dans l'interculturel, comment on se méfie de ça. Hein, on a des codes comme ça qui ont été extrêmement difficiles à comprendre. Hein. Il y en a un que c'est Hall qui en parle très bien. Hein. Ces Américains qui, au début, qui allaient dans les pays arabes pour négocier, arrivaient dans leur esprit américain, donc efficacité, il faut être à l'heure, voilà. Puis ils arrivaient dans un endroit où ils s'installaient, et puis ils gardaient la montre, c'était pas tout à fait l'heure, mais bon, 5 minutes avant, 3 minutes avant, c'était bien, donc ils attendaient, puis bon, puis 5 minutes après, ils commençaient à regarder la montre, et ils commençaient à s'énerver, puis il y a quelqu'un dans le salon qui était là pour les recevoir, qui regardait, qui disait « Ah !» Il n'est pas encore prêt, il n'est pas assez détendu. Parce que de l'autre côté, la politesse, c'est qu'on ne reçoit pas quelqu'un qui n'est pas encore détendu. Donc vous voyez les problématiques que ça peut poser. Hein, il n'y a pas de mauvaise intention ni d'un côté ni de l'autre, il y a simplement de l'incompréhension. Voilà. Donc les codes culturels peuvent être des fois des endroits extrêmement troubles, hein, dans la rencontre, parce qu'on n'a pas tout simplement les mêmes codes. Hein. Le problème de quelqu'un qui travaille dans l'interculturel aujourd'hui, c'est de trouver, si vous voulez, au travers, si on faisait une rosace, vous savez, il y en a qui ont dû faire des ensembles à l'école, on faisait des éléments de rosace comme ça, ce qu'on appellerait le point d'ancrage dans l'interculturel, c'est là où il y a l'endroit du commun. C'est-à-dire trouver cet axe où il y a quelque chose de partagé. La différence vient après. Mais d'abord, où est-ce qu'il y a un axe commun qu'on peut prendre comme référent, comme socle, pour que tout le monde ait au moins ce même axe. Alors des fois, c'est extrêmement ténu, mais on peut le trouver. Et c'est ça, c'est le travail dans la médiation culturelle, c'est toujours trouver cet endroit de médiation à partir duquel on va mettre de l'intelligence sur les différences, à laquelle on va atténuer les peurs ou les exotismes, parce que l'exotisme est très agréable pour celui qui l'a, mais ça peut être très, très problématique dans la compréhension de l'autre. Hein, c'est une fantasmatique qu'on a sur l'autre, mais ce n'est pas souvent la réalité que l'autre a. Hein. Donc c'est un bon moyen pour avoir envie d'aller vers l'autre, mais des fois, ce n'est pas le bon endroit pour bien se comprendre, l'exotisme. Hein. Donc dans l'interculturalité, par exemple, on a les problématiques avec les nouveaux arrivants qui arrivent, qui n'ont pas la langue, qui n'ont pas les codes, qui ne savent pas trop comment ils vont se débrouiller dans une société qu'ils voient bouger mais qu'ils ne comprennent pas. Hein, ça n'est pas rien, c'est 3 bis, 4 bis, serre la main. Bah, quelqu'un qui n'est pas du même pays, il va avoir des problèmes pour comprendre ce qu'on est en train de faire. Hein. Voilà, il y a des tas de codes extrêmement lointains. Hein, que nous on pratique ce que Bourdieu appelait des habitus, hein, c'est-à-dire qu'on n'y réfléchit plus, ça fait partie de nos façons de fonctionner. Hein. Pour quelqu'un qui arrive de l'extérieur, c'est le plus difficile, c'est comment j'arrive à rentrer dans ces codes-là, mais que ça fasse sens. Si chez moi c'est presque interdit d'aller faire la bise à quelqu'un, je ne vais pas y aller. Si quelque part, toucher quelqu'un, c'est la notion de périmètre, par exemple, où on est bien ou pas bien, ce n'est pas les mêmes culturellement. Les Méditerranéens ont l'habitude de se tenir par le bras, de s'embrasser. Dès que vous allez déjà du côté de l'île, c'est beaucoup moins bien vu. Hein. Il y a des espaces qui sont pas les mêmes. Hein. Donc, vous voyez, même en France, on a des codes déjà différents. Donc pour quelqu'un qui arrive, c'est comment il va comprendre tout ça, comment il va s'adapter à tous ces espaces qui sont extrêmement minimes et que les gens ne savent même pas souvent expliquer. Hein. D'où ça vient ? Hein, tous les matins, on se dit « Comment ça va ?»« Va, va !» Vous savez d'où ça vient, comment ça va ? Hein ? Au Moyen-Âge, on disait à quelqu'un « Comment ça va ?» pour savoir s'il était bien allé aux toilettes. Voilà. Et c'est resté dans les mœurs. Hein ? Donc on demande à quelqu'un « Comment ça va ?» c'est en gros « Qu'est-ce que tu es bien allé aux toilettes ce matin ?» Mais voilà, bon, on pratique, c'est devenu une habitude, c'est devenu un espace de politesse même, on ne peut pas le faire autrement. Hein ? Donc voilà, tout ça, c'est des petites choses qui sont nos habitudes, nos pratiques. Et quelque part, on oublie qu'il y a du sens aussi, qu'il y a des enjeux. Hein, voilà. Donc quelqu'un qui arrive, comment il va rentrer progressivement dans ses codes pour que ça devienne, pour lui aussi, non pas un effort, mais des habitudes, que ça devienne ce qu'on appelle petit à petit l'intégration. À un moment donné, on appelait ça de l'assimilation. Hein. Donc quelque part, et c'est là où il faut des médiateurs interculturels, il faut des gens qui puissent aider à ces personnes progressivement à mettre du sens sur ces codes. Parce que tant que le sens n'est pas là, ça devient un lieu de la répulsion. Et ça peut même se transformer en violence. Parce que bon, quelqu'un qui s'approche de vous, vous n'avez pas l'habitude, il peut y avoir un espace de rejet, et ça peut être pris comme un espace d'agressivité à terme. Hein. Voilà. Donc tout ça, c'est des endroits de médiation. Et le gros problème aujourd'hui, c'est que souvent, bah, ces personnes arrivent seules. Hein, les médiateurs ne sont pas toujours présents, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Et donc, on critique beaucoup la notion de communauté, par exemple. Mais la communauté, à ce moment-là, devient indispensable, sinon la personne devient folle. S'il n'y a pas des gens, déjà, qui sont de cette origine, qui connaissent les codes, donc des vrais médiateurs naturels, des vrais interculturels naturels, pour les aider à faire le passage, ces personnes deviennent folles. Elles ne peuvent pas rester comme ça, dans une masse d'informations qui n'est pas déchiffrable. Hein. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui font du tourisme, mais... Moi, je vois beaucoup de touristes qui arrivent dans un pays, aller en Afrique dans un pays un peu perdu. Au bout de 5 minutes, s'il y a un Français qui passe, on court pour aller le voir. Parce que quelque part, on a tellement peur d'être dans des espaces qu'on ne comprend plus. Donc, il faut se mettre dans ces situations aussi où la rupture est extrêmement difficile. Hein. Quand on sort de nos pays occidentaux où on a les mêmes codes, ce n'est pas évident hein, d'assumer les habitudes différentes. Voilà. Donc, pour moi, l'interculturel, c'est comment on trouve des outils en fin de compte, de médiation, de compréhension, qui permettent de mieux assimiler plus rapidement les personnes qui arrivent dans des cultures, enfin assimiler. Le mot j'aime pas du tout. On va dire adapter assez rapidement une personne à d'autres relations. Hein, voilà. Parce que même l'intégration en tant que telle, c'est pas quelque chose qu'on peut ordonner. L'intégration, à un moment donné, c'est quelqu'un qui choisit de s'intégrer. Hein, ça, c'est encore autre chose, parce que sinon, dans l'effort, dans la volonté absolue, on n'oblige pas quelqu'un à s'intégrer, c'est pas possible. C'est à un moment donné, c'est parce qu'il a compris les codes, qu'il les accepte, hein, ou du moins qu'il les considère comme valides, voilà, qu'il va pouvoir s'intégrer. Hein. Sinon, c'est toujours un endroit où ça devient extrêmement violent pour lui, et au bout de moment, ça explose, hein, si c'est quelque chose de forcé. Donc du sens, voilà. Je pense que le travail de l'interculturel, donc le conte peut aider à mettre des outils de sens, de compréhension, parce qu'ils touchent aux fondamentaux des cultures. Donc, on disait le mythe nous permet de comprendre comment une population a représenté le cosmique. Voilà. Les contes merveilleux nous permettent de comprendre comment un individu pense dans le psychique. Hein. Voilà. Les contes de sagesse nous permettent de voir où c'est qu'on met notre pensée sur le monde social. Donc on est sur des formes, quelque part, si on les prend en tant que fonction, qui ont qui sont des outils tout à fait intéressants. Autre question ? Ben sinon, on n'a plus qu'à aller faire de l'interculturel. Quoi faire ? Merci pour vos oreilles. Alors, s'il y en a qui sont intéressés, j'ai amené les deux livres qu'on a, nous, de Nadine Decourt. Et un bouquin que je vous conseille, puisque...